Le débat africain. Alain Foucault.
Né pour la plupart à la faveur du vent de démocratie qui a soufflé sur le continent au début de la décennie 90, plus de 30 ans après, malgré leur grand nombre, malgré leur prolifération, ils peinent toujours à gagner l'adhésion de leur public captif qui préfère regarder les grandes chaînes internationales. Pourtant, dans le même temps, les Africains en ont assez de n'entendre parler d'eux que par les autres. Ils en ont plus qu'assez des clichés qui nourrissent les programmes sur les médias internationaux. Les prédictions apocalyptiques et méprisantes des spécialistes lors de la pandémie du Covid-19 sont venues un peu plus exacerber ce sentiment. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui explique que les médias africains aient autant de mal à séduire et à fidéliser leur population ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la presse francophone africaine. Plusieurs invités, des professionnels au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord Calista Sy, auteur et productrice de la série sénégalaise à succès « Maîtresse d'un homme marié ». Elle est en direct de Dakar. Bonjour Calista Sy.
Bonjour.
Seconde invitée de ce plateau, Jemima Katrey, journaliste et réalisatrice béninoise, membre du réseau des femmes journalistes d'Afrique, les Panafricaines, fondée en 2017, ancienne directrice générale de la télévision nationale du Bénin, l'ERTB. Bonjour Jemima Katrey.
Bonjour.
Notre troisième invité est Fabrice Sawignon, le PDG de Vodou Group, l'une des plus grandes agences de communication du sud du Sahara, qui compte depuis le 26 juin dernier une chaîne de télévision, l'AFTV. Bonjour Fabrice Sawignon.
Bonjour.
Notre dernier invité, et pas des moindres, est un acteur très connu du monde des médias. Maktar Sylla a été directeur général de TV5 Afrique, directeur de World Space, directeur général de la RTS, la radio-télévision sénégalaise, la chaîne publique. Il a également été le directeur général de STV, l'une des principales chaînes de télévision privée du Cameroun, avant de créer, il y a quelques années, la chaîne Label TV au Gabon, qui vient d'ailleurs d'arrêter d'émettre il y a quelques jours seulement. Bonjour Maktar Sylla.
Bonjour Alain, bonjour Christa, bonjour François et bonjour Fabienne, bonjour à tout le monde, à nos auditeurs.
Alors, on a constaté avant la décennie 90, dans la plupart des États francophones notamment, c'était la chaîne publique, l'unique chaîne publique qui disait la messe. Et puis à la faveur du vent de démocratie qui a soufflé sur le continent, on a vu naître des chaînes privées qui se sont multipliées au fil des années. Mais l'on constate après tant d'années, après près de 30 ans, beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs africains continuent de regarder plutôt les chaînes occidentales en les critiquant quand même, en disant qu'elles ne tiennent pas compte de leur réalité, mais elles les regardent. Qu'est-ce qui explique cela, Maktar Sylla ? Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore on continue de regarder ailleurs alors qu'on demande à être un peu plus proche des questions africaines ?
Oui, c'est ce que j'appelle un peu le paradoxe et la contradiction africaine, où en même temps on veut une chose et son contraire. Ça, d'abord, ça commence au niveau des pouvoirs publics, avoir une véritable public de soutien à l'industrie culturelle, aux médias, et ça, c'est des choses tout à fait pratiques et simples. Par exemple, dans les hôtels, que les chaînes nationales puissent et les chaînes africaines soient parmi les premières chaînes lorsqu'on accède à la télévision. Dans les aéroports, plutôt que de nous mettre des programmes de telle ou telle autre chaîne internationale, de mettre des programmes africains. Donc, il faut absolument, je crois, décomplexer. Et l'autre volet de la question, c'est surtout la question de la production.
Mais là, d'entrée de jeu, vous parlez du fait qu'il va falloir qu'on ait une politique qui montre les télévisions africaines. Mais il y a bien une raison qui fait que les gens continuent de regarder ailleurs, que les gens n'aient pas envie de regarder les chaînes locales. Comment cela s'explique d'après vous, Fabrice Sawignon ?
Écoutez, d'abord, avant tout, moi, j'aimerais dire que la télé est un fait culturel. C'est-à-dire que les Chinois regardent la télévision chinoise, les Grecs la télévision grecque, les Polonais la télévision polonaise. Il n'y a pas au Japon un mec qui regarde la télévision chilienne, ça n'existe pas. Donc il est évident qu'en Afrique aussi, nos populations ont besoin de regarder des télés qui leur ressemblent, des télés qui leur sont propres. Je pense que ça, c'est la première chose. À partir de là, moi, je vais rester vraiment sur l'aspect fortement culturel. Là, pour dire qu'on a des programmes qu'on doit offrir à nos spectateurs, mais qui doivent avant tout respecter des normes de qualité, hein, des normes qui donnent envie, en tout cas, à ce public-là, de choisir nos programmes plutôt que ceux, en tout cas, des chaînes étrangères. Et c'est vrai que des fois, en termes de modèle économique, on n'a toujours pas le niveau de qualité requis qui fait que des fois, on n'est pas compétitif. Donc le vrai sujet, effectivement, c'est un sujet de qualité d'offre.
C'est la qualité de l'offre, mais ça vient de quoi ? On ne va pas dire qu'il n'y a pas de techniciens sur place qui puissent proposer des choses équivalentes ailleurs. Qu'est-ce qui peut expliquer, on va dire, la qualité moyenne de ces programmes-là ?
La qualité est de deux faits. Il y a un aspect fortement créatif et donc développement... je dirais de programmes propres, et là effectivement il ne fait pas appel à des moyens qui sont des moyens conséquents, mais après il y a une partie qui est une partie plus technique qu'elle effectivement requiert effectivement pour une production d'avoir des niveaux d'investissement, d'avoir des niveaux de, d'acteurs et consorts, enfin de personnes en tout cas participantes qui soient à niveau. Donc naturellement, on a la possibilité d'être super créatif, d'être hyper adapté à nos environnements. Et après, il faut avoir les moyens de produire de la qualité.
De produire de la qualité. Alors, justement, Calixtasi, pendant des décennies, les femmes regardaient ce qui venait d'ailleurs. Avant, c'était les feuilletons américains, les dynasties et autres Dallas. Et puis sont venues les telenovelas qui ont remplacé ces feuilletons qui passionnaient les femmes. Et aujourd'hui, vous bousculez un peu les esprits. Peut-être que vous êtes l'exemple qui vient montrer que les gens ont besoin qu'on leur parle de ce qui les concerne avec Maîtresse d'un homme marié qui est devenu un véritable phénomène. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cela? Était-ce parce que vous vouliez rapprocher la télévision de la réalité locale?
Oui, bien évidemment. Je pense que quand Maîtresse d'un homme marié a été créée, c'était juste pour faire la part belle à ce que nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette mondialisation, on est dans l'ère de donner et de recevoir. Et quand on prend tout d'ailleurs, n'empêche que quand on revient chez nous, on reste toujours avec nos traditions, avec notre façon d'être et de vivre les choses. Mmh. On a beau regarder du Sex and the City, on a beau regarder des femmes d'ailleurs, on reste nous-mêmes avec nos propres réalités. Et il fallait montrer notre beauté combinée à notre histoire. Et je pense qu'en le faisant pour le Sénégal, on a eu le monde sans pour autant l'attendre. On s'est rendu compte que peu importe où elles vivent, les femmes d'Afrique vivent à peu près la même chose. Et on a même pu avoir des Européennes, on a pu avoir des Maghrébines.
Qui se sont identifiées à ces femmes-là, oui. C'est vrai que Maîtresse d'un homme marié est devenue un phénomène sur le continent. On le regarde de partout quand vous arrivez dans un salon aujourd'hui, le soir. Il vaut mieux ne pas déranger madame parce qu'elle regarde Maîtresse d'un homme marié. Qu'est-ce qui explique ce succès?
Ce succès s'explique par une seule chose. Pour une première, on a entendu des femmes dire le fond de leurs pensées, s'exprimer librement, sans contrainte entre autres, et ça a permis de découvrir que au-delà de comment on caricature les femmes, elles sont un monde à part entière qui vivent des choses, qui s'expriment sur des sujets assez sensibles et qui, comme tout le monde, prennent des décisions dans leur vie, font des erreurs, et c'est comme ça que tout le monde se retrouve à s'identifier aux personnages qui rappellent à chaque femme, peu importe où elle se trouve dans le continent, que nous vivons les mêmes choses, en fait, avec une société qui nous presse, ce qu'on ne nous montre pas, en fait.
Alors, quand on vous écoute tous, on voit qu'il y a un besoin du propre narratif africain qui s'exprime tant chez les jeunes que chez les moins jeunes. Qu'est-ce qui explique qu'on ait autant de mal à élaborer ce narratif, d'après vous, Jemima Katraï?
Ce qui fait qu'on n'arrive pas à élaborer ce narratif, c'est simplement parce que les sponsors sont un peu dispersés en Afrique. Et c'est pour cet objectif-là que nous sommes mis ensemble au niveau du premier réseau des femmes journalistes d'Afrique, tous médias confondus, privés, publics. Nous avons formé ce groupe-là, initié par deux M, qui s'appelle les Panafricaines. Et nous voulons rassembler nos forces dans les 54 pays d'Afrique, afin de pouvoir arrêter cette image de l'Afrique qui est importée. Parce que pratiquement tout ce qui se consomme comme information et comme image en Afrique nous vient d'ailleurs. Toutes ces choses-là qui viennent d'ailleurs doivent pouvoir se faire à partir de l'Afrique. Nous voulons installer un cercle quand même assez vertueux au niveau de l'Afrique, où l'information qui est consommée en Afrique et qui aussi est consommée en dehors de l'Afrique, que cette information soit traitée par les Africains eux-mêmes et que cela parte de chez nous, pour que nous puissions nous retrouver, que les contenus que nous offrons à nous-mêmes et à l'extérieur soient faits de nos propres mains, de notre propre pensée, de notre propre intelligence et de notre tradition.
Ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire il y a un besoin de narratif propre aux Africains. Et ce narratif propre aux Africains, est-ce qu'il peut se faire sans une volonté réelle des dirigeants, sans une volonté politique qui accompagne ces secteurs de l'audiovisuel, Maktarsila?
C'est ce que j'essaie un peu de dire tout à l'heure. Il faut, je pense, véritablement une véritable vision, une véritable politique d'appui, d'accompagnement des médias, qui soit véritablement à leur place, de dépolitiser, aller véritablement dans la création de contenu. Et cela demande également des accompagnements. On appelle des accompagnements au niveau fiscal, au niveau juridique, qu'il y ait une véritable architecture institutionnelle qui permette, avec des financements, avec des fonds dédiés, d'arriver à des productions comme ce que, dans un homme marié, comme on a dit tantôt, On peut citer la série Windex en Angola, qui sont d'excellentes créations, mais également cela suppose de la formation en arrière, des gens qui interviennent dans le secteur, et une approche véritablement moins, c'est-à-dire administrative, de ce que je considère aujourd'hui comme étant une véritable industrie. Parce que si on veut gagner la bataille de l'émergence que l'on galvaude par-ci, par-là, cela passera également par les médias, par une véritable politique de communication, par tous nos atouts culturels, comme le disait Fabien de Vaud. Et je pense que ce sont des choses aujourd'hui qui sont essentielles dans le dispositif. L'autre volet aussi, c'est que nous fonctionnons aussi très peu en réseau, même s'il y a des institutions comme l'Union africaine de radiodiffusion, où je siège au comité exécutif, qui regroupe toutes les télévisions publiques, mais aujourd'hui certaines télévisions privées, et il faut des gens comme Fabrice puissent regagner également cette instance, et d'autres aujourd'hui, pour que nous construisions une véritable force, être un véritable réseau qui peut effectivement, même dans la scène émulation, avoir des projets en commun, avoir des histoires en commun, et faire exactement ce que le Nigeria essaie de faire avec Nollywood, et le fait avec beaucoup de revues, quelle que soit d'ailleurs la qualité qui peut être.
Mais ça marche en tout cas.
Voilà. Mais je pense que ce sont des choses qui sont importantes.
Ce sont des choses importantes. Et là, Fabrice Savignon, votre chaîne vient de démarrer. Que pensez-vous faire qui n'ait pas été fait par les autres chaînes? Comment changer ces paradigmes-là? Comment faire que les Africains puissent regarder une chaîne en se disant « je vais rester dessus » et ne soient pas tout de suite emportés par les autres? Est-ce qu'il faut plus de moyens? Est-ce qu'il faut surtout faire du contenu qui leur parle?
Écoutez, déjà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de contenu. Moi, je veux d'abord revenir aux diffuseurs. Il faut d'abord avoir une infrastructure qui soit capable, effectivement, d'être au top niveau, donc d'être au niveau des plus grandes chaînes. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est notre première offre.
Vous pensez qu'il n'y a pas de chaîne qui soit de qualité, qu'il n'y a pas de diffuseurs qui rivalisent avec ceux du Nord, techniquement?
Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de diffuseurs de qualité. Je dis simplement que dans nos États, en général, les télés nationales, effectivement, ont des plateaux, ont des moyens techniques, des moyens financiers importants, les télés nationales donc étatiques, et les télés privées effectivement des fois ont beaucoup de mal du fait de la structure de l'économie, n'est-ce pas, de beaucoup de mal à investir et à sortir donc je dirais une infrastructure qui soit digne des plus grandes télés privées dans les pays développés. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc nous, ce qu'on a fait, la première chose, c'est qu'on a fait, on a construit donc un siège sur 3000 mètres carrés avec des studios intégrés. Donc un siège qui lui-même déjà n'a rien à envier aux plus grandes télés mondiales. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première chose qu'on a faite. La seconde chose qu'on fait nous c'est donc le contenu. Et naturellement on s'est mis à produire donc du contenu qui répond aux Ivoiriens. On a une chaîne aujourd'hui qui va aller auprès des gens et qui va représenter à peu près 70% en termes de contenu local, donc de ce qu'on va diffuser, donc sur les productions locales qui se rapprochent des gens. On fait parler les gens. On donne la parole aux Ivoiriens. On les voit à la télévision. Dans différentes situations, on aura l'occasion de revenir dessus sur les types de programmes qu'on fait. Et donc, on a effectivement une niveau de créativité, un niveau de proximité qui nous permet effectivement de nous différencier. Et puis ensuite, je dirais que nous, on a une ambition qui est une ambition forte et sur laquelle on a envie de mener de vrais combats. Les vrais combats, c'est comme, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, que je dis qu'ici, par exemple, aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays, beaucoup de spectateurs et de spectateurs donc, payent une redevance TV sur les factures électriques. Cette redevance donc, va dans les poches de la télé nationale exclusivement. Voilà, donc directement, donc c'est un financement direct des spectateurs vis-à-vis des chaînes de la chaîne de télé nationale pour un milieu qui se met un milieu totalement libéralisé. Donc effectivement, il y a un manque d'équité criard. D'un côté, on a une télévision nationale qui, elle, reste financée directement par les spectateurs, avec ou contre leur gré. Et puis de l'autre, on a des télés internationales à qui on donne tout. Je ne vais pas citer d'exemple ici, mais bon, à qui ont le droit de faire de la télé payante, de la télé gratuite, de la télé semi-payante. Et puis en phase 2, on nous met nous. Donc quels sont nos moyens quand on fait une télé TNT gratuite? La seule chose qui nous reste, c'est la publicité. Donc aller draguer effectivement les annonceurs pour avoir les moyens de produire du contenu de qualité.
Justement, j'avais prévu que nous parlerions de cette législation face aux télévisions étrangères dans la seconde partie de ce débat. Mais j'ai envie de dire, ce que vous avez proposé, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir le faire. Est-ce que l'environnement économique permet d'avoir des annonceurs qui puissent vous faire vivre demain?
Écoutez, vous savez que moi, dans une vie antérieure et une vie qui continue toujours d'ailleurs, je suis patron du premier groupe de communication en Afrique noire francophone.
Oui, donc, Vaudou.
Je suis très à l'aise pour en parler. Notre agence est le premier client, par exemple, à la télé nationale en Côte d'Ivoire en termes d'achat d'espace. Donc on sait exactement de quoi il s'agit. Oui, je pense que l'économie, en tout cas nationale ivoirienne, est suffisamment dynamique. Vous avez vu le taux de croissance sur les 10 dernières années qui ont flirté entre 7 et 10% sur les 8 dernières années. Donc il y a beaucoup de marques qui se sont installées, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont envie effectivement de profiter de l'impact de la télévision. Donc on a vraiment, je dirais, une économie qui peut, en tout cas, qui peut supporter, qui peut accompagner la libéralisation.
Mais pourtant, on dit traditionnellement que l'enveloppe publicitaire est beaucoup trop étroite pour permettre à des télévisions privées de s'en sortir sur le continent.
Non, mais ce qui nous manque, en fait, en réalité, c'est pas très juste de le dire. En réalité, ce qui nous manque sont les éléments de mesure qui permettent donc de vérifier l'efficacité de certains supports. Mmh. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans l'affichage, dans la presse, dans la radio, ainsi de suite. Mais personne ne peut vous dire effectivement quel est l'impact de ces supports-là. Actuellement, la télévision souffre de ça, puisqu'on n'a pas de mesure d'audience quart d'heure par quart d'heure, comme ça se fait dans les pays développés. Et donc, les annonceurs ont un peu de mal à se dire, je mets 10 millions, je mets 20 millions sur une chaîne de télé pour promouvoir un produit. Quel est l'impact réel, quelle est la pénétration réelle dans les foyers et sur les profils de consommateurs. Donc, c'est pour ça que tout ce programme doit être accompagné aussi de l'environnement, une mesure même donc d'audience, donc de résultats d'audience qui permettent effectivement, naturellement, de mesurer l'efficacité de l'investissement. Donc une fois que ça se passera bien, vous verrez que c'est vraiment très rentable pour les compagnies. Mais si on regarde des choses très simples comme le coût au mille, c'est quoi? C'est ce que je dépense pour toucher 1000 personnes. Alors si vous regardez ce que vous touchez, si vous regardez ce que vous dépensez pour toucher 1000 personnes à la télévision versus l'affichage ou la presse, vous verrez que la télévision est 15 fois, 50 fois plus rentable.
Plus rentable.
La télé est un attrait, enfin, est un moyen suffisamment attractif d'avancer, mais c'est effectivement l'offre de mesures, l'offre de programmes de qualité, la possibilité d'offrir des chaînes de qualité, donc diffusion de qualité, ainsi de suite, qui a un peu noyé tout ça.
Qui a noyé tout ça. Alors, Calixtasy, vous, avec Maîtresse d'un homme marié, comment vous faites? Comment vous financez ça? Quel est le modèle économique? Parce que les gens se disent, comment ils font pour pouvoir vivre dans cet environnement où il n'y a pas tellement de publicité pour des programmes comme ceux-là et où il n'y a pas des institutions pour financer des feuilletons comme le vôtre?
Alors, notre modèle économique ne plaît pas trop au public qui regarde nos séries, mais c'est l'alternative qu'on a trouvée pour avoir un produit viable qu'on puisse donner gratuitement aux spectateurs. Il s'agit aujourd'hui d'aller chercher les budgets publicitaires des entreprises et des marques. Ils nous reversent ce budget publicitaire et en contrepartie, on fait en quelque sorte de la publicité pour eux via aujourd'hui le produit que nous donnons. C'est ce qui fait que quand vous regardez la série, la publicité elle est assez frappante parce que c'est le seul moyen que nous avons trouvé aujourd'hui pour avoir des partenaires qui puissent nous permettre aujourd'hui de donner au public un produit, de pouvoir...
C'est vrai que vous allez quand même assez loin, quelquefois, même jusque dans le scénario, vous faites rentrer l'annonceur.
Oui, l'annonceur nous accompagne, hein, parce que c'est grâce à cet annonceur qu'on arrive aujourd'hui à donner un produit aux téléspectateurs, et ce produit, il est gratuit. Il faut savoir que créer un produit aujourd'hui demande un budget énorme, puisqu'il faut un budget pour la technique, un budget aujourd'hui pour les acteurs. Il faut aujourd'hui une régie tous les jours. Donc c'est tout un système qu'il faut d'argent, en fait, qu'on n'a pas forcément et qu'on va aller chercher chez les annonceurs, chez les partenaires, qui aussi prennent leur budget publicitaire qu'ils nous reversent. Et en contrepartie, on fait leur publicité. C'est le seul moyen qu'on a trouvé, en fait.
Vous faites leur publicité avec des gros plans dessus qui permettent qu'ils s'y retrouvent. Alors, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour que ce feuilleton puisse vivre longtemps?
Est-ce que c'est rentable? Oui, puisqu'on arrive à bien tenir, en fait. Mais ce n'est pas forcément rentable à 100% au point de nous permettre aujourd'hui d'avoir une vie dorée, entre autres. Mais aujourd'hui, pour la survie du produit, c'est assez compliqué, parce que ce produit-là, aujourd'hui, pour la vente à l'étranger, on doit forcément enlever tous les annonceurs, ce qui est assez délicat en fait, parce que le produit ne peut pas avoir une longue vie. C'est assez dommage en fait, mais c'est le système que nous avons trouvé aujourd'hui pour pouvoir donner un produit.
Alors on va parler dans la seconde partie du modèle économique et du contenu, puisque pour que les choses changent, il faut que l'histoire de la chasse arrête d'être racontée par du seul point de vue du chasseur. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal pour la seconde partie du débat africain consacré aux médias africains.
Le débat africain. Alain Foucault.
Au moment où l'Afrique tout entière souhaite avoir son propre narratif, où elle désire parler d'elle telle qu'elle se sent, sans complexe, Pour faire face à l'impressionnante machine médiatique occidentale et asiatique qui l'arrose sans discontinuer, comment trouver sa voie? Quelles stratégies doivent adopter les médias africains, notamment francophones, pour séduire leur public, pour faire entendre leur son de cloche? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré aujourd'hui à la presse africaine dans son environnement. Avec plusieurs invités, d'abord Calixta Sy, auteure et productrice de la série sénégalaise à succès « Maîtresse d'un homme marié ». Elle est en direct de Dakar au Sénégal. Seconde invitée, Jemima Katrey, journaliste et réalisatrice béninoise, en direct de Cotonou. Elle est membre du réseau des femmes journalistes d'Afrique, les panafricaines, fondée en 2017. Ancienne directrice générale de l'ORTB, l'Office de radio et télévision nationale du Bénin. Notre troisième invité est Fabrice Sawegnon, le PDG de Vodou Group, l'une des plus grandes agences de communication du sud du Sahara, qui compte depuis le 26 juin dernier une chaîne de télévision, Live TV. Notre dernier invité, pas des moindres, est un acteur très connu du monde des médias, Maktar Sylla, qui a été directeur général de TV5 Afrique, directeur de World Space, directeur général de la RTS, la radio-télévision nationale sénégalaise. Il a également été le directeur général de STV, l'une des principales chaînes de télévision privée du Cameroun, avant de créer, il y a quelques années, la chaîne Label TV, qui vient d'ailleurs malheureusement d'arrêter d'émettre il y a quelques jours seulement. Voilà pour notre plateau. On dit toujours qu'il faut, à un moment donné, que l'histoire de la chasse arrête d'être racontée seulement du point de vue du chasseur. Alors, les médias africains semblent avoir pris la mesure et veulent raconter eux-mêmes leur histoire aujourd'hui. Comment faire pour que ces médias puissent vivre dans un environnement où l'économie est aussi difficile? J'ai envie de me tourner vers Maktar Sylla. Maktar Sylla, vous qui avez cette expérience, que faut-il faire dans l'immédiat pour que les Africains racontent leur histoire, racontent leur vie, pour qu'ils se voient eux-mêmes et qu'on arrête de leur parler d'eux d'ailleurs?
Moi, je crois que avec l'avènement de la TNT un peu partout, dans le numérique, où il y aura des centaines et des centaines de chaînes aujourd'hui, et c'est un peu le débat que j'ai eu même avec les autorités ici, il faut avoir une véritable politique d'appui à la production locale. Par exemple, ce que disait...
Parce que des télévisions, c'est important, mais il faut y mettre du contenu.
Oui, absolument. Il faut une véritable politique. Ça veut dire que la télévision ne peut pas tout produire. Il faut externaliser une bonne partie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un réseau de producteurs, qu'il y ait des professionnels d'autres secteurs qui y sont et à qui on confie des missions, des mandats de réalisation, de production. Et tout cela demande effectivement des moyens financiers. Il faut qu'on arrête de considérer la télévision comme véritablement juste un outil comme ça, circonstanciel, qu'on utilise au gré des besoins. Car si on n'arrive pas à gagner la bataille des contenus, mais tout ce que nous essayons de construire aujourd'hui, l'éducation de nos enfants, les comportements, le développement économique, tout cela va se trouver véritablement pénalisé et retardé. Donc je pense qu'il faut, pour éviter qu'on ait de la publicité à outrance, comme ça se fait dans les séries, et ils n'ont pas d'autre solution pour le moment, c'est cela. Parce qu'en termes de régulation, si on applique une régulation stricte, ce n'est pas possible. Il y a des pays dans lesquels cela n'est pas possible. Donc il faut avoir un système fiable, un système qui soit équilibré. Les acteurs locaux, y compris les acteurs économiques, comprennent, comme ça a été expliqué tout à l'heure, que la télévision est un puissant moyen de promouvoir leurs produits.
Oui, mais lorsque vous dites il faut qui doit prendre l'initiative?
D'abord, il y a d'abord une responsabilité de l'État, des organisations. Aujourd'hui, les organes de régulation, il faut passer véritablement de la perception répressive à une perception qui veut organiser un secteur économique, dynamique et porteur. L'autre chose aussi, c'est qu'au sein même de nos organismes, il y a ce que j'appelle la dictature de l'information, qui fait que bon, le journal télévisé, les journalistes accaparent 90% des moyens, alors qu'ils n'occupent que 10%.
10%, vous avez dit, hein, parce qu'on a eu un problème avec le téléphone.
Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut absolument que nous ayons un système qui fonctionne, avec différentes parties prenantes, où les enjeux sont tout à fait appréhendés, où les moyens sont mis en œuvre par l'État que par les opérateurs économiques.
Lorsque vous dites à un dirigeant, c'est l'État qui doit mettre de l'argent, on a le sentiment, on écoute souvent ça, qu'est-ce qu'on y gagne? Pourquoi on mettrait de l'argent dans les télévisions et dans la fabrication des contenus?
On a eu un débat il y a quelques semaines où il est prouvé qu'aujourd'hui, voilà, le gros pactole africain va de produits et j'allais dire de revenus africains vont à l'échelle extérieure au continent. Mmh. Il y a une sorte de complexe, il faut arrêter ces choses-là.
Pour vous, et là je me tourne aussi vers Jemima Katrey qui est au Bénin, pour vous, vous pensez que les États doivent désormais avoir un quota de publicité qui aille aux chaînes étrangères et un autre quota aux chaînes nationales?
Bon, chacun aura sa partition à jouer hein, de toutes les façons, mais ce que nous voulons, c'est que la grosse part revienne quand même aux productions locales. que ce soit nous-mêmes qui puissions conscientiser, sensibiliser sur nos problématiques propres, sur notre richesse, mais cela passe par les moyens. Et si nous ne le faisons pas et qu'on donne encore nos propres moyens à l'extérieur pour que ça nous revienne, cette Afrique importée, ça ne va pas être possible à réaliser nos objectifs. Nous nous sommes dit au niveau de notre réseau qu'avec la solidarité entre les médias du continent, les 54 pays du continent, nous pourrons y arriver. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis. Mmh. Et si nous ne parlons pas, si nous ne donnons pas la parole à nos dirigeants, et si nous ne donnons pas la parole à nos experts, aux personnes ressources sur place, même nos dirigeants n'ont pas toujours conscience de ce qu'il faut donner, reprendre le pouvoir de l'information, reprendre le pouvoir des médias, des mains de nos amis d'en face. Mmh. Si nous continuons à consommer ce qui nous vient de l'extérieur, au lieu de donner les moyens à l'intérieur pour pouvoir produire, nos dirigeants ne vont pas comprendre pour autant l'urgence de ce besoin-là que l'Afrique a à voix au chapitre, à se positionner dans l'histoire de son point de vue.
On écoute beaucoup cela dans la presse africaine, dans tous les pays, le débat est le même, de dire il va falloir que la publicité, le peu de publicité qu'il y a, ne soit pas trustée par les grandes chaînes internationales. C'est aussi votre combat, non, Fabrice Avignon?
Non, moi je dirais que mon combat est différent. Moi je ne veux pas me mettre dans cette direction là, que la publicité doit être attribuée à qui est là. La publicité, elle va là où il y a de l'audience, hein, et où il y a la cible qu'on recherche. Donc, vous avez beau être une chaîne, si vous n'avez pas ma cible, si vous n'avez pas d'audience, je ne vais pas vous envoyer de la pub quand même. Donc, je pense que ça, c'est... Moi, je ne suis pas partisan du moins d'effort. Hein. Je considère qu'il faut que chacun, effectivement, offre un produit qui attire les annonceurs. Moi, je considère, par contre, que ce sont les politiques publiques, par contre. Je pense que le développement, c'est aussi d'abord un développement culturel. Il faut savoir que la culture, elle est le pilier numéro un du développement. La culture. Ça, c'est fondamental. Et il faut que nos pays, nos dirigeants se rendent bien compte que se ressembler à soi-même, être fier de ce qu'on est, c'est déjà le premier pas vers effectivement le développement. Et donc je pense fondamentalement qu'il faut que les politiques publiques puissent aider à financer effectivement aussi bien d'un côté les productions locales, donc pour aider comme dans les pays développés. Dans tous les pays développés, il y a des fonds qui aident au financement des films, au financement des séries, au financement des projets de documentaires et consorts. Donc il faut naturellement qu'on ait donc des politiques publiques qui aident à ce développement-là, donc à financer ce type de projet, tous les talents africains. Et puis il faut qu'à côté de ça, on ait une sorte d'environnement qui soit suffisamment safe et encourageant pour des promoteurs locaux qui puissent développer des projets, comme des projets ou des diffuseurs, ou des projets effectivement d'agrégateurs de contenu. Donc c'est vraiment plus sur ça que moi j'ai envie de me pencher que sur effectivement capter d'avance une publicité quelconque.
On écoute Makar Sylla, pas mal d'Africains dire les grands pays ont chacun des chaînes qui vulgarisent leurs pensées et que l'Afrique est le seul continent finalement à ne pas avoir d'outils comme celui-là. Pour vous, c'est absolument nécessaire, il faut une chaîne panafricaine qui porte l'image de l'Afrique ou bien ça doit être des chaînes privées?
Moi, je crois que bon, ça peut être un partenariat public-privé comme c'est à la mode, mais je crois que le privé sera forcément un fondement. Il faut que ces chaînes de télévision, pour qu'elles puissent être regardées à l'international, il faut qu'elles soient aussi intéressantes. Si les gens pensent que la voix et l'image du maître, bon, ça ne marchera pas. Donc, je crois que c'est une chose qu'il faut absolument faire. En France, c'est ce qu'on appelait la politique audiovisuelle extérieure, où le ministère des Affaires étrangères intervient dans le financement de cette chaîne, véritablement promouvoir la culture française, le rayonnement, etc. Nous devons aussi avoir beaucoup de chaînes. Je ne parle pas d'une seule chaîne panafricaine. Moi, j'ai la vocation d'être une chaîne panafricaine, d'autres le font aussi. Je fais du 100% de contenu africain, donc avec une équipe multinationale, etc. Donc tout ça, je pense que c'est connu. Mais l'autre chose également que je voudrais dire, et sur lequel ça sera l'objet d'un autre, c'est la question des études d'audience qui souvent sont biaisées.
La question des études d'audience.
Absolument. Il faut également avoir une vraie stratégie. Parce que souvent, elles sont biaisées. Elles sont faites lorsque les campagnes, on le sait, elles sont annoncées. Et moi, il y a des chiffres, je ne crois pas trop. Et je pense qu'il y a d'autres approches qu'il faut mettre en place qui permettent effectivement de le savoir. Quelquefois, vous ne pouvez pas avoir du tout de chiffres, mais quand...
Pourquoi est-ce qu'on biaiserait les chiffres, Makar Sylla?
Mais parce que ce n'est pas nous qui payons les études d'audience.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on biaise les études d'audience, comme le dit Makar Sylla?
Alors, en fait, juste avant de reprendre cette question, si vous permettez, Alain, je vais revenir sur le point d'avant de Makar, qui est effectivement, fondamentalement, il faut que l'Afrique raconte son histoire. Il faut que son histoire soit suffisamment sexy pour que les gens aient envie, effectivement, de regarder une compagnie africaine. Il faut que l'Afrique sublime sa propre histoire. Donc, il ne faut pas qu'on attende que des personnes extérieures viennent filmer l'Afrique pauvre ou l'Afrique miséreuse. pour raconter notre histoire qui n'a pas envie effectivement de la regarder. Donc il faut que naturellement, les Africains eux-mêmes se réapproprient effectivement leur propre environnement, leur propre histoire.
Ça, c'est le débat sur le contenu.
Oui, oui, mais ça va au-delà du contenu. C'est-à-dire que d'un côté, on a le contenu effectivement qu'on peut avoir, mais on a aussi, il parlait tout à l'heure d'influence de grands pays à travers des médias. Mmh. Et cette influence-là, elle naît de quoi ? Elle naît de la culture, en fait, en réalité.
Absolument.
C'est le sujet de la culture. Mmh. C'est pour ça qu'on a besoin, effectivement, de sublimer notre culture et de faire confiance, de raconter notre propre histoire différente que les gens ont envie de suivre. Tous mes enfants ont envie de ressembler à des Américains. Tous nos enfants ont envie de ressembler à des jeunes Américains et des jeunes Parisiens. Ils n'ont peut-être pas envie de ressembler pour l'instant à un Chinois des cantons. Parce que c'est vraiment l'histoire américaine racontée différemment de l'histoire chinoise. Et c'est tellement ça. C'est juste une question de storytelling, hein, de comment tu racontes ton histoire. Et maintenant, je vais revenir là sur le point dont tu parlais, Alain, qui est pour moi un point super important, sur les études. Les études, en fait, on ne peut pas dire qu'elles sont biaisées ou qu'elles sont trafiquées. Par contre, en termes de méthodologie, tout est à revoir. Naturellement, le type d'études qui sont réalisées, les méthodes utilisées pour faire ces études-là, sont des fois très, très contestables, et donc les résultats peuvent ne pas être fiables. En fait, il y a une sorte de plateforme qui va se mettre en place, d'environnement global qui se met en place, autour, quand on parle de libération, quand on parle de chaîne de télé, naturellement, ça crée des métiers qui sont des métiers directs et des métiers qui sont des métiers indirects. Et si on parle de télé de libéralisation, naturellement, sur la 15e chaîne de télé, on va mesurer qui est la première qui vient de l'audience. Donc, il y aura effectivement un ensemble de rédacteurs qui vont tourner autour de l'environnement de téléviseur et qui vont devoir aussi participer et donner des éléments qui permettent effectivement d'améliorer l'efficacité du support.
Alors, on a parlé du modèle économique, on va parler de contenu, vous avez commencé à en parler. Là, tout à l'heure, on disait l'Afrique doit raconter son histoire, l'Afrique doit reprendre en main son histoire, doit se la réapproprier. Et que, pour la raconter, il faut qu'elle soit sexy, un peu plus sexy. Il faut commencer par là, non, Calixtasy?
Bien évidemment, il faut commencer par ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'influence du monde, les gens ont l'habitude de voir des choses magnifiques qui viennent d'ailleurs. Et quand aujourd'hui on leur propose du contenu qui ne sied pas à ce qu'ils attendent ou ce qu'ils veulent, ils ont cette possibilité de voir tout ce qui vient de partout. Et j'ai compris ça quand j'ai commencé à regarder beaucoup les Américains, beaucoup les Nigériens. J'ai su que la manière de raconter, la direction artistique, le tout participait au fait de donner un super bon produit. Et quand nous l'avons essayé sur la première saison et sur la deuxième saison, nous avons vu l'impact qui a été très réel. On a vu d'autres nationalités avoir envie d'aborder nos tenues, avoir envie de visiter nos décors. Et du point de vue touristique, du point de vue...
De venir au Sénégal. Nous avons...
Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent venir au Sénégal, beaucoup de gens veulent s'habiller comme les Sénégalais, beaucoup veulent venir manger notre steak ou parler wolof. Et c'est dans la manière de préparer les choses et de les présenter, ça a donné un impact au produit qui a su intéresser au-delà des frontières. Il faut raconter nos histoires, oui, mais raconter nos histoires de la plus belle des manières.
Raconter de la plus belle des manières, cela amène à la formation même de ces producteurs, à la formation même des métiers de l'audiovisuel, non, Makarsila?
Non, absolument, je crois que ce sont des choses essentielles. Aujourd'hui, par exemple, pour les séries qui sont à la nationale, pour les mettre en version internationale, pas sous-titrées, mais doublées, il faut former des gens, des acteurs, etc. Mais il y a une panoplie de métiers, c'est plus d'une centaine donc dans ces métiers de l'audiovisuel, entre les accessoristes, les fixeurs, etc., les maquilleuses, j'en passe, les costumières, etc. Qu'on ne réduise pas tout aux journalistes dès qu'on parle de communication. Et si on arrive effectivement à avoir une masse critique, à avoir une production suffisante, tout à fait ouverte, déjà rien que le marché africain en tant que tel, peut-être un marché où tout peut s'amortir.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas cette mutualisation? Qu'est-ce qui fait que les gens ne se mettent pas ensemble pour faire ce que déjà fait le Nigeria dans une certaine mesure?
Oui, absolument. Je pense que c'est ce que nous devons être déjà de faire. Nous deux déjà, avec d'autres dont ils ne sont pas aujourd'hui dans ce débat, ceux qui sont dans ce débat-là aussi. Je crois que véritablement, il faut bâtir toute une architecture et que nous ayons la volonté de faire les choses en commun. Lorsqu'il y a plein de séries qui ne sont pas faites, mettez un homme marié, est-ce que moi je peux la prendre avec mes capacités de langage et la mettre en anglais? Est-ce que je peux la prendre la mettre en arabe? Ainsi de suite. Donc je pense que ce sont des choses comme ça qu'il faut... Moi, je dis de manière générale, il n'y a pas des études de conception, elles se forgent à l'épreuve du temps et d'une masse critique de produits qui sera disponible, de qualité qui peut intéresser des gens, dans lesquels il y a du mutisme, ils peuvent se projeter, c'est une sorte de miroir.
Alors l'autre aspect aussi, c'est la presse en ligne. Lorsque l'on parle de contenu, est-ce que la presse en ligne n'a pas manqué le virage de, on va dire, du numérique, du Mima Katray? Parce que on veut bien raconter l'histoire, mais finalement la presse papier est en train de disparaître et on a le sentiment que les Africains dans le domaine de la presse en ligne disparaissent encore un peu plus.
Je ne pense pas que l'Afrique disparaisse, l'Afrique soit en train de disparaître au niveau de la presse en ligne quand même, parce que de plus en plus, il y a des portails sur l'Afrique qui sont quand même en ligne. Et nous utilisons beaucoup ce réseau-là, le réseau Internet, pour pouvoir faire passer l'information, les images, les contenus africains. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous d'avoir Internet, de pouvoir, dans l'immédiat et avec une plus grande facilité, faire passer l'histoire de l'Afrique. Parce qu'avant, il fallait attendre, par exemple, pour avoir un film ou bien pour avoir une information, il faut attendre que ça passe par la poste ou par les frettes. Mais aujourd'hui, avec Internet, on doit pouvoir se faire passer les informations. Je donne un exemple comme une série comme celle de Calistasi. C'est une série, sans attendre même que ça passe sur les télévisions, on a la possibilité de télécharger. Personnellement, moi, j'ai déjà regardé les deux séries. Mmh. On a la possibilité de télécharger.
Calix, vous avez vu qui vous pirate, hein?
Non, mais c'est ouvert, hein. C'est Marodi qui nous donne ça directement à partir de nos téléphones. Mmh. On a la possibilité de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Afrique, peu importe où on est en Afrique. Et c'est cela, nous, notre objectif, les panafricaines. Nous sommes dans les 54 pays africains, lusophones, francophones, anglophones. Partout où il y a un pays africain, nous sommes présents pour pouvoir porter l'image, l'information de chacun de ces pays-là et, dans la solidarité africaine, sensibiliser à la fois nos dirigeants, à la fois nos populations, pour que désormais nous puissions nous adapter, réadapter, je dirais, à nos codes. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la culture du beau, qu'il faut sublimer nos histoires. Mais comment pouvons-nous sublimer nos histoires si nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas nos histoires et que nous ne connaissons pas les codes? Les codes pour pouvoir sublimer nos histoires. Parce que les codes qui nous viennent de l'Occident ne sont pas les mêmes que chez nous. Les couleurs, les décors paradisiaques, nous en disposons ici. Et il faut que ce soit nous-mêmes qui puissions les valoriser et les imposer maintenant. Et Internet, pour nous, est l'outil idéal et nous sommes en train de l'utiliser de plus en plus. La jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus ouverte sur Internet que sur toute autre chose.
Internet, un avantage. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un changement complet de paradigme où les Africains vont consommer leurs médias, Fabrice, en deux mots?
J'ose espérer. Mais je pense que ça
va prendre du temps.
Il faut plus de volonté que ça. Il faut plus d'organisation que ça, et ainsi de suite. Moi, je donne l'exemple très bien, parce que maîtresse d'une femme mariée, nous, on a essayé de l'acheter pendant 3 mois, on a négocié, on était au bout du contrat. On devait signer quand une chaîne internationale est venue proposer un cachet plus gros à nos amis sénégalais.
À Calixta?
En tout cas, à la boîte de prod. Donc, ça prouve qu'on n'en veut pas, parce qu'effectivement, ils font un programme, ils ont besoin de rentabiliser le programme. On a naturellement ce qu'il faut. C'est qu'on ait des modèles économiques qui puissent nous permettre de compétir et d'être bons, c'est tout. Mmh. Moi, j'ai vraiment envie que la compétition soit une compétition d'intelligence opérationnelle, économique et créative, et pas seulement sur, un sujet...
Sur la fête.
Exactement.
En tout cas, merci d'avoir accepté d'en débattre un peu ici. Ce n'est que le début d'une discussion, puisqu'il existe quand même, on va dire... une passion autour de la question des médias en Afrique et les Africains ont envie de raconter leur histoire tout seul ce coup-ci, sans fioriture. Et on se rend compte qu'il y a une vraie émulation autour de la question des médias. On reviendra sur la question bientôt. Merci en tout cas d'avoir accepté d'en débattre. À très vite.